Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, donc votre émission hebdomadaire. Chaque lundi 19h20, nous accueillons Rémi Faugère, coach de tech. Rémi, bonjour, bienvenue.
Eh bien, bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre émission. Donc, je vous présente les participants à l'émission. Christian est là. Donc, Christian, salut.
Salut, Didier.
Donc, hors antenne, on parlait poker, mais on y reviendra dans le courant de la saison. Et puis, si vous le permettez, on va dédier cette émission à notre camarade Dédé, notre camarade d'antenne, qui est touché par le Covid. Donc, Dédé, si tu nous entends, cette émission, elle est pour toi. Courage, tiens bon et surtout, prends soin de toi. Christian, pardon, je te laisse la première question.
Oui, ben, ravi d'accueillir Rémi, la deuxième fois qu'il fait une émission avec nous, puisque c'est sa deuxième saison en Charente. On avait pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui l'an dernier. Malheureusement, ben, les matchs, il n'y avait pas eu beaucoup de matchs, la saison s'était vite arrêtée. Alors là, il y a une coupure de 2 mois, mais heureusement, c'est une coupure qui était prévue dans le calendrier, puisque votre dernier match remonte au 11 décembre, une victoire contre le club des Volcans, et vous reprenez que le 5 février. Alors, la première question est relativement simple. Comment tu fais pour gérer finalement cette trêve de 2 mois?
Donc, déjà, rebonjour à tous. Merci de m'accueillir à nouveau. Du coup, c'est vrai que l'année dernière, ça a été un petit peu tronqué. Donc là, on est sur une trêve là, de quasi 2 mois. On a coupé le 16 décembre jusqu'à ce soir. On reprend ce soir. Le but, c'était pour nous de laisser un petit peu de temps de repos aussi aux joueurs sur une première partie de saison qui a été, je suppose qu'on en parlera plus tard, mais pas à la hauteur de nos ambitions, donc une charge mentale pour les joueurs qui est pas simple à gérer. Hein. Donc on a voulu aussi leur permettre de se reposer avec un petit programme individuel sur les vacances de Noël, mais assez léger franchement pour leur permettre juste de faire tourner un petit peu les jambes, comme on peut dire dans le vélo, mais garder un petit rythme. Et on reprend sur les entraînements ce soir avec une prépa quasi estivale, avec une période aussi longue que la période estivale. Donc ça va nous permettre de retravailler un petit peu tout, que ça soit sur la partie physique ou sur la partie handball, où on va pouvoir retravailler notre projet de jeu et venir voir peut-être des petites nouveautés et avoir le temps de bien travailler. Donc ça, c'est une chance qu'on a, nous, dans notre championnat.
Après une aussi longue trêve, on dit parfois que finalement c'est un nouveau championnat qui redémarre. Est-ce que c'est ton avis?
Je ne sais pas s'il y a une vérité absolue. En tout cas, nous on l'espère parce qu'on n'est pas là où on aimerait être. Et voilà, on sait qu'on a lâché des points en route sur la première partie de saison, donc on aimerait avoir un autre statut sur la deuxième partie de saison. Donc, du moins avoir les résultats qui sont similaires à notre statut. Donc c'est quasiment que des victoires. Hein, on ne va pas se le cacher. Si on veut espérer quelque chose à la fin de la saison.
Ouais, tu parlais justement de charge mentale pour les joueurs. Il y a aussi une charge physique parce que vous avez quand même fait 11 matchs en 2 mois, de septembre à décembre. Donc ça fait quand même pas mal de week-ends où vous avez été pris. Est-ce que finalement le soir du 11 décembre, t'as senti les joueurs qui avaient vraiment besoin de souffler?
Alors, bon, on avait des joueurs qui étaient fatigués. C'est vrai qu'on avait fait une prépa estivale assez lourde, un petit peu avec un recul. Il faut être aussi faire un petit peu d'autocritique. On avait voulu jouer 3 équipes de N1 sur notre prépa d'août, ce qui a été hyper intéressant et hyper enrichissant pour le groupe, hein, où on allait chercher des ressources qu'on n'avait pas, vues encore dans ce groupe-là. Mais on arrivait en fait début septembre avec un petit peu de fatigue, mine de rien, plus que celle qu'on aurait dû avoir sûrement à ce moment-là du championnat. On l'a vu dans les résultats, c'est qu'on lâche aussi des points dès la deuxième journée. Et donc, on a eu des joueurs qui ont eu besoin de récupérer. Donc, nous, on a géré un petit peu cette phase de récup, un petit peu parce que le championnat le permet. Il y avait des vagues, en fait, de 3 matchs, un week-end de repos, 3 matchs, un autre week-end de repos. Et la période la plus dure était la dernière vague de matchs où il y avait 5 matchs à enchaîner au début de l'hiver, qui est pas la période, même si on joue à l'intérieur, la plus simple à gérer, venir s'entraîner tard le soir. Voilà. C'est pas le plus simple, hein. on va pas pleurer, on est content de s'entraîner, mais c'est vrai qu'il y a une période où on a un peu plus de fatigue, la période de décembre, et là on avait une phase de 5 matchs. Donc voilà, on a eu quelques petits bobos sur la dernière journée, on avait quand même 3 absents sur le collectif avec des blessures, donc on voyait quand même une petite usure. Donc c'est vrai que la coupure est arrivée au bon moment avec un groupe qui était un petit peu fatigué par divers événements. Donc voilà, ça aura permis, je pense, à tout le monde de remettre un petit peu de frais dans les têtes et dans les jambes.
D'ailleurs, tu parlais de matchs amicaux entre équipes de National 1. C'est un niveau que vous espérez atteindre peut-être dès la saison prochaine. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce qu'il y a un gros gap de niveau entre la N1 et la N2?
Ouais, le vrai écart de niveau, il se fait dans une densité physique. On va retrouver des joueurs plus grands, plus puissants, plus fort dans les duels. Techniquement, ça se joue plutôt à des détails, hein. Mais c'est vraiment dans la densité physique, on a l'impression que les impacts sont plus lourds, sont plus conséquents sur les joueurs et peuvent peser au fil du match, hein. Voilà. De toute façon, sur notre prépa, on fait 2 victoires et 1 défaite d'un but face à des équipes de N1, hein. Donc,
donc c'était intéressant.
Ouais, non, ça veut dire que on est pas si loin du niveau de jeu. Maintenant, entre des matchs de prépa et une saison normale, on sait que ça n'a rien à voir, hein. Les équipes sont pas engagées pareil. Et puis ces équipes-là, elles aussi étaient en gestion, par rapport à nous. C'est-à-dire, voilà, eux, ils jouent pas le match à fond. Nous, on a peut-être les joueurs dans leur tête aussi, petite fierté de pouvoir accrocher ces équipes-là et donc à un quart d'heure de la fin, essayer d'aller chercher la victoire aussi, hein. Je pense que quand on joue ces genres d'équipes-là, même en prépa, on a envie de se prouver, enfin, en tant que joueur, je suppose qu'on a en capacité d'y aller, et c'était de dire, ben voilà, peut-être que si on fait un prépa, ça peut nous donner des signaux un petit peu sur la saison, et voilà. Donc, non, l'écart est pas si grand, mais surtout une densité physique plus importante, plus de joueurs grands et costauds, même si on n'est pas plein.
Tu faisais référence au classement, bon, on va le donner, donc vous avez fait 11 matchs, ce qui correspond à la moitié du championnat, et donc vous êtes 5e avec 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Ce qui vous met donc 5e à 4 points de retard de Tarvets. Est-ce que déjà 4 points au handball, c'est un écart irrémédiable ou il y a plus trop de joker de votre part là?
Alors on est 5e et égalité en fait avec le 3e,
oui. Oui. Égalité, avec en fait, et à 1 point de retard sur le 2e.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors 4 points, ça commence à être conséquent. On va pas se mentir, hein. 4 points, ça commence à faire beaucoup, en sachant que quand on perd, on prend 1 point. Quand même. Donc on revient moins vite forcément, si l'équipe la première perd, eh ben on revient que de 2 points à chaque fois, quoi. Donc en fait on a 2 victoires d'écart sur eux, et si on gagne chez eux de plus de 1 but, oui. Donc 2-3 etc. En fait les 2 victoires nous suffiront pour leur passer devant.
Oui, parce que si vous êtes à égalité, ça se joue au
ladérage particulier entre, oui, les deux équipes qui jouent. Oui. En fait, voilà, si on est 3e, enfin on est sur les 3 équipes, on est 5e là où on est égalité, parce que on a fait match nul à Saint-Nazaire et qu'on a perdu contre Bruges-Lormont, donc forcément sur les 3 équipes on bascule 5e. Mais si on est égalité avec d'autres équipes, ça peut être redistribué.
Au niveau des stats, Rémi, c'est quand même bien pour l'équipe. Vous avez la meilleure attaque, donc, de mémoire, avec 340 buts et la 5e défense avec 301 buts, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je n'ai pas les chiffres devant les yeux, mais je sais qu'on est la première attaque et on est dans pas si mauvaise défense. Ce qui...
Meilleure différence de but. Bon, après, même si c'est du particulier à égalité, ça reste quand même des points intéressants.
Non, mais c'est forcément intéressant. La régularité sur le long, en fait, paye aussi, c'est-à-dire que ce goal average particulier, il montre qu'on est quand même une équipe qui est très performante. Maintenant, il y a des erreurs de parcours. Et le problème, c'est que chaque erreur de parcours, elle est payée cash au classement, hein. La défaite contre Tardets ou la défaite à Asson, avec ses 4 points en plus. Mais au final, on est premier du championnat parce que Tardets a pas ses points et on a les points d'Asson qu'on doit jamais perdre. Et du coup, on est au classement à la première place. Donc, c'est payé cash. Voilà, nous, on a une deuxième partie de saison où on sait que des équipes comme l'Union vont lâcher des matchs. Une équipe comme Tarzette peut s'user parce qu'elle est peut-être pas armée pour tenir une saison entière. En tout cas, nous, on l'espère. Et on ira dès la deuxième journée de championnat avec beaucoup d'envie à aller prendre des points là-bas. Et on sait qu'on n'a pas le choix si on veut espérer quelque chose.
Tarzette, d'ailleurs, c'était prévu dans les favoris ou ça reste quand même une surprise?
Non, c'est une surprise. C'est une équipe qui a gagné beaucoup de matchs de 1-2 buts, soit à l'arraché, qui est menée dans les dernières minutes, puis qui repasse devant ou qui tient ce petit avantage et qui le garde jusqu'au bout. Mais malheureusement, ça fait partie aussi de, malheureusement pour nous, mais heureusement pour eux, ça fait partie de un petit peu ces équipes qui ont peu la chance avec eux, et tout tombe toujours du bon côté, la pièce tombe toujours de leur côté, pas mieux pour eux, mais bon, on espère aller faire changer un petit peu ça et que ça tourne un petit peu de notre côté aussi.
Ouais, mais d'ailleurs, on va parler de ce match aller qui était donc la 2e journée de championnat. C'est arrivé très vite, votre première confrontation directe contre eux. Vous perdez d'un but 29-28, c'est ça, ouais. Ils marquent à 5 secondes de la fin. Match où vous êtes jamais mené, vous faites un bel écart, je crois, en début de match, la mi-temps, je crois qu'il y a 1 ou 2 buts d'avance, et puis à 10 minutes de la fin, il me semble qu'il y a 3 buts d'avance pour vous, un truc comme ça, et finalement, ils reviennent et ils vous passent, finalement, ils vous coiffent sur le poteau.
Mais c'est un petit peu ça le scénario du match. On commence un début de match avec beaucoup, beaucoup d'intensité, où l'écart au score est grand très vite, un petit peu à l'image du dernier match face à Aurillac, où le score grandit très vite, et là, on a en fait une sorte de relâchement où presque un peu de facilité, où on tombe dans le piège de facilité, où on est à plus 6 à un moment au score, on a 3 ballons de contre-attaque qu'on loupe d'affilée. Donc à place d'être à plus 8, plus 9, on laisse 3 ballons où on est à plus 6, et eux derrière enchaînent une phase où ils mettent 3, 4 buts d'affilée. Au final, le plus 6, ils transforment en plus 2, plus 3 avec une équipe qui a du coup un petit peu une période positive pour eux. Et donc on revient à la mi-temps avec plus 1. Oui. Un peu frustré qui en fait qui est pas à l'image de la mi-temps entière, parce qu'on a l'impression de survoler, que c'est plutôt nos échecs ou nos errances qui leur permettent de revenir et non pas leur niveau de jeu, et donc c'est assez frustrant. Mais on repart au vestiaire avec un petit peu cet état d'esprit là attention à toutes ces errances là essayons de sur cette deuxième mi-temps de vraiment faire les efforts et de tuer le match si on en a l'occasion.
Donc vous menez du coup de 4 buts, j'ai la feuille de match devant les yeux, de 4 buts à 10 minutes de la fin.
Ouais, c'est ça exactement. On est bien, on repart sur une deuxième mi-temps où on est encore une fois dans la maîtrise, où vraiment on impose notre rythme, on a l'impression d'avoir un contrôle sur le match, même si c'est une équipe qui met du rythme, qui est toujours accrocheuse, qui voilà, mais sans être inquiété. Et en fait, dans les dernières minutes, dans les 10 dernières minutes, là, on sent une petite tension qui vient autour de ce match-là et on les sent revenir petit à petit. Alors sur le match, nous, c'est vrai qu'on a 3 blessés en fait sur la deuxième, enfin entre la fin de première période et le début de deuxième, et du coup qui empêche une gestion physique des joueurs majeurs du terrain. Et en fait, ces joueurs-là ont aussi eux à un moment perdu en lucidité dans la gestion de ces derniers ballons. Et malheureusement, on peut pas leur en vouloir, parce que on était aussi démunis de joueurs, parce que 3 blessés sur des postes majeurs, c'est aussi compliqué à pouvoir gérer. On n'a pas un banc illimité, et des joueurs ont peut-être pas l'expérience aussi pour pouvoir tenir ces fins de match. Donc, on a eu des joueurs qui étaient un petit peu en manque de lucidité, qui ont jeté des ballons qui étaient importants, et eux posent un temps mort à 10 secondes de la fin. Et annonce un mouvement assez piège, et voilà, eux marquent un but avec très peu d'angle, voilà, très très beau but, hein, pas dire le contraire, mais avec un petit peu de réussite, et il en faut, ils l'ont eu, ouais, et pas nous ce soir-là, mais c'est des points qui sont certes importants dans la course à la montée.
C'est vrai que c'est la deuxième journée, donc on pouvait pas se douter que Tarbes allait être premier à la trêve, mais c'est vrai qu'en tout cas, d'un point de vue scénario, c'est le genre de match qui fait, le genre de défaite qui fait très mal à la tête.
Ben, c'est ça. Après, on a peut-être lancé leur dynamique aussi, hein, parce qu'ils font une première journée à Libourne, où on se dit quand même gagner Libourne et tout, c'est un bon résultat. Libourne qui était une belle équipe l'année d'avant. Voilà, on se dit c'est un bon résultat. Attention, il faut se méfier. On s'est aperçu que Libourne n'était pas au classement là où ils espéraient être. Puis au final, ils viennent chez nous, ils nous gagnent. On les rentre sur une grosse dynamique. Du coup, ils ont gagné 2 gros en début de championnat. Et en fait, ils se sont lancés un petit peu sur ça, sur leur saison, quoi. Et nous, derrière, il faut rebondir en allant à Bouguenais avec l'obligation quasiment de pas perdre. Et Bouguenais, qui est une belle équipe du championnat, qui joue bien, qui est voilà, vraiment une équipe intéressante. On fait match nul là-bas, où on doit gagner, et une ou deux décisions dans les dernières secondes nous permettent pas de gagner ce match, parce qu'on est à plus 2 à 2 minutes de la fin, et on se fait rendre 2 ballons un petit peu volés dans les dernières minutes. Mais ça fait aussi partie des aléas du sport, c'est que des fois on maîtrise pas ce genre de choses, et si on avait été à plus 3 peut-être à ce moment-là du match, on aurait gagné. Donc voilà, on commence nos 3 premières journées avec une victoire, une défaite et un nul, ce qui n'est pas dans le programme, quoi.
Et puis pour reprendre une autre expression du vélo, vous avez directement été en chasse-patate au final. Vous avez directement été dans la peau du chasseur avec justement des points de retard sur le leader.
C'est ça. On s'est mis un petit peu dans une situation où après on a forcément les aléas d'un groupe aussi, gérer des zones de pas de tension, mais des zones d'échange où on n'est pas là où on espérait être. Il faut réfléchir à ce qui a pas été, ce qui a fait que on tournait pas comme on voulait tourner. Et donc voilà, tout le long de la saison jusqu'à arriver là au mois de décembre, où je pense qu'on a commencé à trouver aussi un rythme de croisière et on commence à être plutôt bien et avoir un niveau de jeu qui est constant, ce qui n'était pas le cas en début de saison.
Et puis il y a un autre match sur lequel je voulais revenir, c'est lors de la 7e journée, un déplacement important du côté de Saint-Nazaire, match nul 28 partout, et ce qui est intéressant par contre dans la finale du match, au contraire de Tarbes, vous êtes toujours mené au score et vous arrivez à égaliser en fin de match à 2 minutes de la fin, et ce 28 partout, il est quand même bon à prendre.
et surtout à Saint-Nazaire, qui est une équipe qui sera, je pense, jusqu'à la dernière minute en bataille avec nous pour cette montée, parce que ils ont sûrement un des meilleurs gardiens de la poule avec Gardena, qui est passé par le centre de formation de D1. Enfin, voilà, c'est une très très belle équipe qui est accrocheuse, qui a des vraies valeurs de combat, ce qui nous, des fois, pourrait nous faire un petit peu défaut. Eux l'ont, et c'est vrai que c'est un match qu'il faut aller prendre, enfin, des points qu'il fallait prendre là-bas, et on a une balle pour gagner à la dernière seconde, qu'on met pas, mais on peut gagner ce match-là, en sachant qu'on est derrière tout le match, et on a quand même montré de vraies valeurs de groupe, et face à une équipe comme ça, et ça a lancé aussi quelques petites choses entre nous, même si on perd derrière à 100, c'est vrai que ça a montré aussi des valeurs un petit peu différentes. Et voilà. Mais c'était des points qu'il fallait prendre, parce que chez nous, il faudra les gagner, mais un match nul là-bas, c'est quand même un bon résultat, parce que c'est toujours très, très compliqué d'aller gagner à Saint-Nazaire.
Et puis, comme le rappelait Didier, ben, vous restez du coup sur 3 victoires de suite, là, avant la trêve hivernale, avec beaucoup de buts marqués. Vous avez fait le job sur les trois derniers matchs, mais est-ce que du coup, c'est un peu frustrant de s'arrêter sur au moment où finalement on a trouvé la bonne carburation?
Ouais, je sais pas s'il faut se frustrer sur des choses qu'on maîtrise pas. Malheureusement, le calendrier, on le maîtrise pas. Et souvent, c'est ce qu'on essaie de se dire un peu. C'est est-ce qu'il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on maîtrise pas? On doit pas, nous, se frustrer sur les choses qu'on maîtrise pas. L'arbitrage, on maîtrise pas. Quand il y a des choses, des cas Covid, des blessures, des choses comme ça, ben, malheureusement, on maîtrise pas. Donc, on essaye de pas s'y arrêter dessus et se concentrer sur ce qu'on maîtrise. C'est les choix tactiques, c'est la gestion de la fraîcheur des joueurs, c'est des choses plutôt comme ça, quoi.
Vous arrivez à la trêve, donc cinquième, et donc vous allez redémarrer avec, votre prochain adversaire, je vais te laisser prononcer le nom de l'adversaire parce qu'il y a beaucoup trop de lettres pour moi, je suis pas un joueur de Scrabble. Alors,
nous on dit Irizarry, comme ça c'est plus simple, mais c'est Irizar Tarak.
Ouais. En tout cas, c'est un match, c'est contre l'avant-dernier, donc c'est forcément un match qu'il faut absolument gagner. Et ouais, ça vous permettra de, si vous l'emportez, de bien redémarrer, parce que c'est un match de reprise avec tout l'inconnu que ça comporte, et puis derrière il y aura le choc à Tardets.
Exactement, mais on sait que là sur les trois premières journées, on se disait ça à la fin du championnat, mais enfin à la fin de la première phase, et on se le redit là. Pas mal d'équipes se jouent, mine de rien, Bouguenay, Bruges, l'Union, des choses comme ça. Enfin, ça joue sur le haut de tableau encore. Donc c'est quand même intéressant pour nous si on arrive à prendre des points en continu, parce que du coup on fait des petits écarts et on commence aussi à créer une place un petit peu de chasseur derrière ces équipes de tête, et la pression elle est plus la même parce qu'il faut les tenir après les résultats, et nous derrière on aurait juste à saisir la première place au bon moment, parce que de toute façon il faut être premier à la dernière journée, avant
oui, tout à fait.
Pas grand chose, donc voilà, et nous il faut qu'on soit patient, qu'on prenne les points tout du long, et voilà. Kirizari sur la première journée du mois de février, c'est une équipe bas de tableau qui est en train d'apprendre du niveau National 2, qui avait connu le début de saison l'année dernière, et qui était sa première saison N2, et qui là est en train de vraiment découvrir le niveau, avec un des meilleurs buteurs du championnat quand même dans leur équipe, avec un ou deux joueurs expérimentés. C'est pas simple à jouer. Vaut mieux les recevoir qu'aller là-bas. Donc on est dans le bon timing. Hein. On a pris les points là-bas, nous, en début de journée. Certains ont perdu des points. Hein. Les grosses équipes ont perdu des points là-bas. Donc faut s'en méfier quand même.
L'an passé, malheureusement, le championnat a été arrêté très vite. Mais est-ce que la poule cette année a été modifiée? Enfin, est-ce qu'ils ont modifié les poules ou ils ont gardé les mêmes poules?
Non, c'est exactement la même poule que l'année dernière.
Mais après, par contre, il y a toujours l'inconnu des équipes qui sont renforcées ou qui ont perdu un peu des joueurs. Donc au final, vous n'avez pas fait beaucoup de matchs. Donc c'était un peu redémarrer un peu dans l'inconnu cette année.
Ouais, c'est ça. On avait quand même quelques idées. Hein. Saint-Nazaire, Bouguenay, pour nous, étaient quand même des équipes assez fortes. Et Rodez qu'on n'a pas parlé trop là.
Qui sont juste derrière vous au classement.
Ouais.
Sixième.
Qui voilà, une équipe en reconstruction avec un projet très très ambitieux chez eux. Qui est en train de démarrer. Voilà, on savait que c'était des équipes qui joueraient le haut de tableau avec nous. Ils sont pas morts, on les a gagnés chez nous en faisant un très gros match, mais en faisant un très gros match, quoi. On n'aurait pas joué à ce niveau-là. Je pense que voilà, ça aurait été très difficile de les gagner. C'est une très belle équipe, complète, sur tous les postes. C'est vrai que ça donne quand même, après, du coup, des matchs assez engagés, parce que quand on fait le tour, il n'y a quand même pas d'équipe si faible que ça. On a vu quelques, voilà, en bas les Volcans, une ou deux équipes qui est un petit peu en dessous, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de match si simple que ça, quoi. Ça se met toujours du temps.
Oui, parce que c'est vrai qu'entre Bouguenay qui est 7e et puis l'Union qui est 2e, il n'y a que 3 points d'écart.
Puis nous, Bouguenay, nous on fait match nul là-bas, et l'Union qui est 2e, mine de rien, on gagne presque de 10 buts chez nous face à eux, quoi. Donc on est dans un flou un petit peu du niveau de jeu sur ces équipes de haut de tableau, qui est pas, en fait, c'est pas très clair en fait. Suivant qui joue ou qui est en suivant l'état de forme des équipes, ça peut être assez changeant quand même.
Oh, et puis en plus, ça, le gros défi pour vous, au final, si je me trompe pas, c'est que vous allez à Tardets, vous allez recevoir Bordeaux, oui. Vous allez recevoir Saint-Nazaire et vous allez aller à Rodez. Donc, au final, les équipes de haut de tableau, ça va pratiquement être beaucoup de déplacements.
Ouais, bon, on reçoit Bruges, on reçoit Saint-Nazaire, on reçoit Bouguenay quand même.
Oui, donc au final, ça équilibre.
Ouais, c'est à peu près équilibré. Hein. Enfin, c'est vrai que moi aussi, je regarde, même si ça changerait, au final, on doit tout faire, hein, mais c'est vrai que voilà, c'était quand même plutôt équilibré dans l'ordre. On se déplace chez les gros, on reçoit des gros et on va chez des petits et on reçoit des petits, entre guillemets, des équipes qui sont un peu plus accessibles et inversement.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Rémi Faugère. Pardon de t'avoir interrompu, Christian, c'est à toi.
D'ailleurs, donc, tu nous as indiqué que la poule n'avait pas changé. Et d'un point de vue effectif, est-ce que vous, chez vous, il y a eu des mutations, des arrivées ou des départs?
Oui, nous, on a eu 3 arrivées chez nous. Du coup, Maxime Taupin, dans les buts, qui est arrivé du centre de formation de Cesson-Rennes, qui est un jeune gardien. On a Davrin Vranić, qui est un arrière-droit, qui a joué en D2, qui a fait plusieurs montées de D2 à D1, qui est un joueur plutôt en fin de carrière, hein, qui a 35 ans. Et Jean-Christophe Bénard, qui nous arrive de CPB Rennes, qui est un pivot, qui a connu une montée de N2 à N1 à Frontignan, où moi, je suis passé aussi. C'est là-bas où je l'ai rencontré.
On va dire un peu l'alliance de la jeunesse et de l'expérience.
Ouais, c'était ça, c'était le but, hein, de trouver un petit peu des joueurs qui nous amènent un peu d'expérience et en même temps, pas dénaturer trop tout non plus, d'avoir des joueurs aussi jeunes, hein, parce que Vranić, 35 ans, Jean-Christophe Bénard, c'est 26-27, et Maxime Taupin, ça a 20 ans. Donc voilà, on est dans un juste équilibre du très jeune, du joueur qui commence à maîtriser le niveau de jeu et du joueur expérimenté dans le groupe. Voilà.
Et est-ce qu'il y a eu des départs?
On a eu un arrêt, un gardien de but, Pierre Vigneault, qui a souhaité prendre aussi un petit peu de recul, qui est resté en réserve, et un arrière droit, un jeune arrière droit, Clément Burdez, voilà, qui est arrivé de l'Union, mais qui avait fait que du coup les 3 premiers matchs de la saison avec nous, et puis qui est reparti pour ses études du coup sur Toulouse.
Voilà, du coup 2 départs, 3 arrivées. Au final, ça reste un effectif qui reste relativement stable.
Oui, bon, après c'est important de garder une certaine stabilité pour aussi continuer à pas avoir à tout changer entre chaque saison. C'est on garde un cadre et on avance sur ce cadre là et on vient rajouter des éléments qui nous manquent ou sur lesquels il faut renforcer un petit peu.
Et d'ailleurs, toi, à titre personnel, finalement, t'es dans une situation un peu bizarre dans le fait que t'es arrivé donc l'an dernier en Charente, malheureusement une saison qui a rapidement été tronquée par le Covid. Et là, on peut pratiquement considérer que c'est ta première saison finalement à l'ETEC, enfin je veux dire en termes de compétition officielle.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
Ça t'a permis justement cet arrêt l'an dernier, ça t'a permis finalement de peut-être mieux appréhender le cadre, finalement d'avoir une année d'adaptation sans vraiment trop de matchs et puis de te familiariser un peu avec toutes les composantes du club.
Oui, bon, ça allait quand même assez vite, hein, pour maîtriser aussi l'environnement du club. C'est vrai que mon poste a changé un petit peu aussi au sein du club. Je suis arrivé en tant qu'entraîneur où j'avais uniquement le groupe de national en charge, où petit à petit, en fait, la coupure au mois de novembre m'a permis, moi, de m'intéresser à d'autres sujets, parce que en même temps, en parallèle, moi j'ai un DE JEPS qui est un diplôme d'état dans le handball, et là je passe à un DES JEPS qui est un diplôme de directeur de structure, en fait, sur ce type de, par exemple, de club, pour les permettre d'avancer et se développer. Et du coup, ça m'a permis, moi, un petit peu de commencer à regarder d'autres projets, d'essayer de faire mûrir le club sur d'autres sujets. Donc en fait, cette période là elle m'a permis de, moi, d'être dans le club, avoir un autre regard un peu plus intérieur, on va dire, dans son développement et dans la réflexion qu'on voulait avoir un petit peu pour faire grandir le club. Donc forcément des prises de connaissances avec les municipalités, des choses comme ça sur des projets et qui nous accompagnent au quotidien. Donc ça c'est vraiment intéressant pour nous. Mais du coup, moi, ça a fait changer un petit peu mon poste et aussi ma connaissance, en fait, du territoire, et proche et moins proche au final du club et de la Charente et de éventuels techniciens qu'il y avait sur le territoire, en se rapprochant des comités, etc., pour discuter avec toutes les personnes qu'il y a sur notre territoire. Donc ça, c'est très intéressant, même si je pense que mon réseau sur le territoire élargi à ça doit être encore agrandi, parce que je pense que...
Bien sûr.
C'est ça qu'on progresse aussi, c'est en discutant avec des gens sur le territoire pour continuer à le maîtriser encore mieux.
Bon, finalement, malgré l'arrêt des compétitions, finalement, ton agenda a quand même été plutôt bien rempli.
Oui, oui, non, je me suis clairement pas ennuyé de janvier jusqu'au mois de juin. C'est vrai que j'ai pas arrêté. Après, j'ai un mois de juillet assez rempli parce que je travaille sur le Tour de France également. Mais voilà, c'est vrai que non.
Ah bon, on s'est croisé, hein, peut-être.
Ouais,
c'est enfin, j'étais sur une étape sur le bord de la route avec mon petit drapeau suisse.
J'en ai vu tellement. Du coup, je travaillais sur la caravane du Tour de France l'été.
Donc. Ah bah écoute, peut-être que c'est toi qui m'a envoyé le portefeuille Cofidis que j'ai gagné.
C'est possible.
Que faisais-tu sur le Tour de France?
Je conduis sur la caravane LCL. Voilà, sur le dispositif LCL où en fait je conduis avec des hôtesses dans les voitures qui distribuent elles des goodies tout le long de la journée. Voilà.
En fait, ça doit être vachement sympa parce que moi forcément qui aime bien le Tour de France, tu fais le parcours finalement tout le parcours. En plus, ce qui est vachement varié, des étapes de plat, conduire des caravanes dans l'école, ça doit être un truc
à faire dans une fois en vie. C'est pour rester un petit peu en lien avec ce qu'on dit depuis le début, c'est toujours un petit peu ces esprits de groupe, oui. On est des groupes de 40.
Trois semaines, on est tous ensemble.
Trois semaines en communauté, donc forcément avec des tempéraments à gérer qui sont différents par des responsables, avoir un autre statut aussi que celui de l'année. Et c'est vraiment des aventures humaines hyper intéressantes où on fait aussi du réseau avec des personnes qui sont dans l'événementiel sportif, qui maîtrisent d'autres choses, qui ont une autre vision, qui travaillent dans d'autres sports. Donc c'est vraiment enrichissant et pour moi, je suis très content. C'est souvent sur ma période de vacances, forcément au mois de juillet. Le temps que je suis dans des niveaux un petit peu, on est encore amateur, niveau national 2, et qu'on passe pas dans le niveau professionnel, ça me permet encore de faire ça quelques temps. Alors j'espère qu'à un moment aussi, moi, j'aurai la possibilité de passer professionnel et de plus avoir ce temps-là de libre. Mais pour l'instant, c'est un temps libre qui me permet de faire ça et c'est vraiment enrichissant humainement aussi sur cette période.
Et combien de Tour de France tu as ton actif alors ?
5. Voilà,
j'ai pas fait. C'est plus que certains coureurs professionnels.
Ouais, mais bon, l'effort est pas le même.
Et tu parlais tout à l'heure aussi de la découverte de la Charente. Alors la Charente, c'est comment ? J'imagine que t'as passé beaucoup de temps dans les salles avec les acteurs du handball charentais, mais comment tu t'es acclimaté à notre département?
Ouais, pour rester sur la partie handball, c'est quand même un territoire qui a une culture handball, qui connaît le handball avec des clubs comme la CR sur le territoire féminin, mais aussi des clubs très formateurs sur toute la partie d'Angoulême avec le Gompontouvre, Ruel, des choses comme ça, Saint-Thierry, que je connais quand même au moins de nom. Je suis déjà allé dans les salles, je connais pas tous les techniciens de tous les clubs, mais chance d'en croiser quand même quelques-uns. Le club comme Cognac qui travaille sur des projets aussi féminins qui sont très intéressants. Voilà, on sait, c'est des clubs qui travaillent autour de nous. C'est un territoire qui respire le handball, même si on n'a pas une densité de population qui permet d'avoir beaucoup beaucoup de licenciés, il y a quand même des clubs qui travaillent et qui ont une petite culture et qui ont envie de porter des projets. Ça c'est intéressant, et pas que des projets de haut niveau, des projets de formation aussi. Et ça c'est important pour le territoire d'avoir aussi différents types de projets masculins, féminins, axés sur la performance, la formation. C'est vrai que nous on porte les deux, mais c'est pas toujours simple de réussir à porter les deux.
Donc tu connais Richard Nordinger?
Exactement.
Vous échangez, vous avez eu l'occasion d'échanger?
On a déjà eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois avec Richard.
Ouais. Donc lui, c'est quelqu'un qui est très investi dans le handball. Hein. Ça fait longtemps qu'il y est. Et chaque fois qu'on le reçoit, on parle de la LGO. Donc c'est vrai que c'est un club formateur et que c'est toujours très intéressant d'être en contact avec ces gens-là.
Nous, c'est un club avec qui on a de très bonnes relations et qui on échange beaucoup sur des jeunes joueurs aussi, parce que du coup, nous, on a un niveau moins 18 championnat de France chez nous. Donc, c'est un échange très intelligent souvent, avec une porte ouverte de jeunes de chez eux qui auraient la possibilité de venir évoluer à un niveau jeune championnat de France. Et eux laissent toujours la porte ouverte, si c'est fait en toute logique, pour le jeune de venir évoluer chez nous s'il en a la possibilité.
Moi, je connais plus le foot et c'est vrai que en football, Angoulême est l'équipe phare un peu du département, et c'est vrai qu'ils sont associés avec quelques clubs comme Charente-Limousine, Saint-Arieix, Soyeaux et peut-être un autre, pour faire un peu des groupes de travail, notamment par rapport à la jeunesse. Hein. On est plus fort ensemble. Est-ce que pareil au handball, il y a des petites associations? Tu parlais justement de passerelles, justement pour peut-être rapatrier entre guillemets les meilleurs jeunes, pour que ces jeunes-là puissent connaître le haut niveau chez les jeunes. Est-ce qu'il y a des passerelles justement avec les clubs en Charente?
Pas aussi clair et identifié que ce que vous venez de décrire, mais c'est vrai que nous, par exemple, si on veut être honnête, notre formation, il y a beaucoup de joueurs qui sont là sur le niveau moins 18 champions de France, ou même des joueurs de N2 pré-national qui est la réserve chez nous, arrivent de clubs comme par exemple le Gompontouvre, qui est un gros club formateur. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des échanges plus ou moins avec le club du Gond, par exemple. On a une entente aussi avec le club de Ruel sur la deuxième équipe moins de 18 pour permettre à des jeunes de chez nous qui n'ont pas le niveau de jeu, par exemple, de jouer en moins de 18 France, ou pour faire une rotation sur l'équipe moins de 18, d'aller jouer dans un autre club et pas tout garder chez nous de façon un peu égoïste. Ou des fois aussi, on n'a pas la possibilité d'avoir assez de joueurs pour faire deux équipes. Donc, ça permet un petit peu d'échanger. Le projet, nous, à court terme, ça serait quand même de porter une section sportive ou quelque chose qui pourrait y ressembler sur Angoulême et pas forcément qu'avec l'étiquette de l'ETEC, et plutôt départemental, hein, qui permettrait sûrement à nos jeunes de chez nous d'y évoluer, mais sûrement quelques jeunes d'autres clubs aussi. Et ça, c'est pas simple, c'est des projets qui sont compliqués à monter, surtout là, en manque de réseau sur le territoire. C'est vrai que c'est des choses qui sont plus dures à monter, qu'on n'est pas installé depuis une dizaine d'années sur un territoire, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont en train de tourner dans notre tête pour essayer, voilà, de permettre à tous les jeunes du département qui auront un niveau intéressant d'avoir des séances d'entraînement en plus, peut-être un peu plus cadrées, un rythme plus soutenu, etc. Quoi.
Voilà. À ce sujet-là, Rémi, il y a combien de licenciés au club ?
Nous, là, on est, si je ne dis pas de bêtises, on doit être autour de 250. Je n'ai pas les derniers chiffres devant les yeux, mais on est pas loin de ça. L'année avant le Covid, on était à 320. Et l'année encore avant, on était à 270. Donc, ça a fait 270, 320. Les années Covid, un petit peu compliquées. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on repart sur une année quasi normale. Avant, l'explosion à 320, c'était un record, hein, chez nous, 320. Mais on sent un engouement. On a des équipes jeunes où il y a une nouvelle dynamique d'insuffler avec beaucoup de jeunes entraîneurs. Et on sent vraiment l'envie de reprendre le handball. Et on pense que l'année prochaine, on va toucher les 300 sans
difficulté, oui.
Ouais. C'est vrai que l'ETEC, c'est un club qui est dynamique et qui surf en plus sur une bonne vague. Il y a forcément, pour qu'un club soit dynamique, il faut une équipe fanion, une locomotive qui performe. Mais il y a aussi plein de wagons derrière. Et c'est vrai que globalement, tu faisais référence donc à la réserve qui est en prénat, les 18 qui sont du coup au plus haut niveau national. Ça performe bien chez vous.
Oui, on est vraiment dans un équilibre en fait dans notre projet, où c'est vrai qu'on a une vraie ambition, hein, de monter en National 1, mais pas à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout sacrifier. Ce qui a été fait depuis des années sur ce territoire-là, sur le handball, c'est travailler sur la formation et une formation de qualité. C'est vrai qu'on avait Ludovic Bussard, pour certains qui connaissent, qui était un éducateur au club salarié, qui travaillait très très bien sur la formation. Il a décidé de changer de voie il y a un an. Et notre inquiétude, c'était de retrouver un technicien qui permette d'apporter aussi aux jeunes de la qualité et une formation quasiment du même niveau, du moins, voilà, et pas faire de sacrifices sur cette partie-là. Et on a mis Guillermo Rosaribas, qui est joueur et capitaine de l'équipe première, qui a une expérience de joueur professionnel sur toute notre formation, et du coup qui amène son expérience de joueur de haut niveau à toute notre formation, et donc une culture aussi différente. Et on s'aperçoit qu'au final on avait peur aussi du changement, hein, c'est normal, que au final on avance quand même différemment, mais on avance quand même avec une très bonne dynamique sur notre secteur jeune. Et on a essayé de mettre en place beaucoup de jeunes STAPS qui sont étudiants aussi un petit peu aux manettes chez nos équipes jeunes, pour aussi amener quelque chose qui est cohérent à ce qu'on fait sur nos équipes premières et réserves. C'est mettre en avant la jeunesse et la formation de notre territoire. Donc c'était important pour nous qu'ils soient acteurs aussi de la formation. Et on s'aperçoit que c'est payant, parce qu'on a quand même beaucoup de retours positifs.
Ouais, et puis aussi l'avantage d'avoir un joueur de l'équipe première qui chapeaute la formation, c'est qu'au final, vos jeunes licenciés ont des contacts avec lui, le voient, et puis s'intéressent aussi forcément au match de la première. Au final, c'est tout un club qui est en symbiose. Et puis j'imagine aussi que forcément on forme des joueurs, mais on forme aussi peut-être des futurs entraîneurs. Donc il y a peut-être certains joueurs chez qui la vocation d'éducateur naît rapidement, et ces joueurs-là peuvent aussi avoir des formations ou des choses comme ça.
Exactement. Ben nous, du coup, Guillermo Rosaribas, qui est salarié chez nous, organise là actuellement, en train de préparer ça pour la fin du mois, une formation pour les jeunes entraîneurs, des jeunes de moins de 18, moins de 15, qui aimeraient encadrer des jeunes de moins de 9, moins de 11, par exemple. Et donc, il est en train de travailler sur ça pour les mettre un petit peu en action au sein du club. Et pour vous, vous l'avez dit juste avant, c'est vrai que du coup, ce lien-là direct amène que ben, le gymnase, les soirs de match, est plein à ras-bord. Quoi. C'est vrai que je ne sais pas si vous êtes déjà venu voir des matchs, mais la période, la début d'année, me permettait quand même d'accueillir salle comble. La salle était comble et rarement comme ça pour écouter les plus anciens. La salle était remplie avec une ambiance pour les amateurs de sport, souvent surpris par l'ambiance qu'il pouvait y avoir au bord de ce terrain et du niveau de jeu proposé. Donc ça amène en plus un engouement pour nos jeunes de venir voir du handball où la salle est pleine, l'ambiance est bonne et que en plus le spectacle est au rendez-vous.
La salle de la Rochefoucauld, en plus les spectateurs sont près du terrain, donc il y a une symbiose, il y a une ambiance formidable, non ?
Ouais, c'est ça. Puis bon, les joueurs aussi connaissent leur salle et jouent aussi de cette proximité avec le public, que ça soit dans l'entrée sur le terrain en début de match, un petit peu nominative, où on sent la salle un petit peu monter en pression, ou que ça soit dans les belles actions où les joueurs n'hésitent pas à venir faire un regard ou un point levé vers le public pour leur demander d'encouragement et encore plus de soutien quand la dynamique est bonne et au contraire quand ça va pas, que le public vienne les soutenir et venir un petit peu pousser ces joueurs. Et ça c'est vraiment aussi une force pour nous quand on joue à domicile.
Les entraînements se font avec l'équipe de pré-national ou c'est un groupe élargi?
Non, nous on a un groupe de 16-18 joueurs. Et du coup on est autosuffisant dans notre entraînement. Ça permet que quand on a des blessés ou autres, on peut quand même s'entraîner. Dans ces 18 joueurs, forcément il y a des joueurs un petit peu de la réserve qui viennent s'entraîner avec nous et qui redescendent sur les entraînements de la réserve le reste de la semaine en fonction des besoins ou non.
Sachant que sur les 18 joueurs que tu as à ta disposition, tu peux en aligner combien sur la feuille de match réglementairement?
14.
D'accord, donc il y en a 4 qui sont un peu en mode qui vont peut-être jouer en réserve, enfin, qui sont un peu la liaison entre les deux équipes.
C'est presque défini, sauf sur un ou deux postes ou un ou deux joueurs, les gardiens de but et un poste de pivot défenseur, mais quasiment les autres postes, c'est à peu près défini. Et après, derrière, c'est des jeunes qu'on appelle nous partenaires d'entraînement, qui viennent s'entraîner avec nous, qui eux, si en cas de blessure, peuvent évoluer avec nous, et s'il n'y a pas de blessure, redescendent de façon un petit peu hiérarchisée en réserve.
Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, toi, t'as du nombre à l'entraînement, donc c'est toujours intéressant d'avoir du nombre, au lieu de faire des entraînements à 10-12 joueurs. Et puis, ces jeunes-là, ça leur permet de se confronter à l'entraînement avec des joueurs aguerris du niveau National 2. Et c'est forcément ça. C'est une formation qui est en mode accéléré.
C'est ça, exactement. Alors après, le défaut, c'est peut-être des fois le manque de concurrence sur la feuille de match, parce qu'on a un groupe de 15-16 joueurs qui est quasiment assuré de jouer. Mais c'est vrai que nous, on a une concurrence plutôt interne sur le temps de jeu où chaque joueur qui est sur la feuille de match a quasiment la possibilité de pouvoir s'exprimer, sauf les plus jeunes. C'est toujours plus dur aussi pour des jeunes joueurs de 18-19 ans de pouvoir être performant à ce niveau-là directement, mais 80-90% des joueurs ont un temps de jeu presque j'allais dire partagé, et en fonction de l'état de forme, chacun peut gagner un peu plus de temps de jeu ou au contraire en perdre en fonction de sa performance sur le match. Et donc ça, c'est aussi intéressant, et ça force le joueur à être performant s'il veut rester plus longtemps sur le terrain ou éventuellement, s'il n'est pas dedans, que le copain est au rendez-vous pour venir l'épauler. Donc on est dans une concurrence plutôt saine.
Est-ce que tous les postes sont doublés, Rémi?
Non, on n'a pas tous les postes doublés. Le poste d'arrière droit est pas doublé. En fait, on a 5 joueurs de base arrière pour 6 places. Et en fait, on navigue un petit peu comme ça les joueurs pour combler cette 6e place manquante. Du coup, des joueurs qui ont des doubles postes.
Arrière droit, c'est un peu. Est-ce que c'est une erreur? Parce que j'imagine que l'arrière droit il joue à droite et donc forcément, mais pour avoir des tirs ouverts,
il est gaucher.
Ouais, exactement. C'est
peut-être plus compliqué de trouver des gauchers.
Ouais, exactement. C'est plus dur de trouver des gauchers, surtout des arrières qui sont performants, hein, et qui nous marquent des buts, parce que c'est un poste où on demande ça. Mais ouais, c'est pas toujours simple, mais voilà. Vranić est arrivé là cette année. C'est vrai que ça nous fait du bien. Ça rééquilibre aussi l'attaque. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à ça qu'on est on est meilleur attaque du championnat, parce que le danger vient de partout. Si on regarde le classement des buteurs, c'est vrai qu'on n'a pas un joueur chez nous qui met 10 buts tous les matchs, même si Vranić en met quand même pas mal. Mais derrière, ça marque sur les postes d'ailier, ça marque sur le poste d'arrière gauche, ça marque sur le poste de demi-centre, pivot, on peut faire le tour.
Là, ça vous permet d'être justement imprévisible et plus compliqué à défendre.
Exactement, mais c'est un petit peu la difficulté que moi, pour avoir échangé aussi après match avec des coachs, c'est aussi la difficulté eux dans l'approche du match. C'est s'ils sortent, ils peuvent se passer ça. S'ils restent en bas, il se passe d'autres choses. Et du coup, ils sont toujours à une demi-adaptation parce que le danger vient d'ailleurs en fonction de ce qui se passe en face de nous. Quoi.
Et tu faisais référence d'ailleurs au match à domicile. Enfin, moi, je sais qu'en basket, c'est hyper important de jouer à domicile parce qu'on a les rapports avec le panier. L'adresse est hyper importante. Est-ce que finalement, quand on joue à domicile dans une salle de handball, on a des repères aussi? C'est forcément prépondérant de jouer à la maison ou pas trop?
Ouais, si, ben surtout pour l'ambiance et voilà, certaines sécurités. J'ai du mal à l'exprimer là comme ça de façon claire, mais c'est vrai qu'on sent les joueurs aussi un peu plus engagés, on dirait, dans le combat. Je sais pas si ça peut vous paraître clair, hein, mais c'est vrai que les terrains, il y a deux tailles de terrains différents, hein, qui existent en handball, c'est 40 par 20 ou 18 par 38, donc voilà, il y a pas 10 tailles, donc mais c'est plutôt de l'atmosphère qui peut y avoir autour du terrain qui je pense porte les joueurs en fait dans l'approche. Donc forcément les matchs à domicile chez nous sont durs à venir gagner. Et les déplacements, c'est vraiment en fonction des équipes. C'est vrai que les équipes dans les Pyrénées sont souvent très dures à aller gagner là-bas. D'autres équipes, par contre, à l'extérieur, quand on se déplace, c'est pas forcément c'est imprenable, quoi.
Ouais. Il y a des ambiances chaudes d'ailleurs, mis à part la vôtre.
Oui. Ouais, il y a des gymnases qui sont plutôt chauds. Hein. Et puis après, ça dépend forcément de la proximité du public, de la culture un petit peu, mais
ça doit être chaud, non?
Ouais. Donc, on est toujours très bien accueillis. C'est toujours mieux si on perd là-bas quand même. Donc,
Et d'ailleurs, c'est vrai que là, malheureusement, le Covid nous rattrape un peu en ce moment. À l'heure où on parle, il y a le pass vaccinal n'est pas encore voté, mais potentiellement, il y a en tout cas des jauges qui sont étudiées. C'est 2000 personnes en intérieur, je crois. Est-ce que vous, potentiellement, le pass vaccinal, s'il est voté, plus des jauges, ça peut potentiellement vous faire peur?
Ben déjà sur ce qui est les réformes qui ont été prises là, on n'a plus le droit de faire de buvettes et de restauration. Oui. Donc nous déjà, c'est manque à gagner pour nous parce que ça fait partie aussi des recettes de soirée. Mais en termes de jauge, forcément si venait y avoir des jauges, le pourcentage par rapport au nombre de places, ça nous impacterait encore plus parce que forcément nous, les entrées sont payantes aussi et du coup ça nous viendrait. On n'a pas un gymnase immense, donc on peut accueillir entre 500, 550 de tête comme ça.
Que 2000 une jauge à 2000, ça vous dérange pas, mais par exemple, je sais pas, 50% de 500 personnes, ce serait beaucoup plus dérangeant.
Bien sûr, après, il y a une certaine logique, hein, c'est-à-dire que quand on a un gymnase de 8000 places et 2000 personnes, c'est sûr que c'est bien, mais pour un gymnase de 1500, s'il y a 1500 dedans, les jauges, c'est pas. Voilà, c'est pour aussi, je pense, ça va y avoir une certaine cohérence dans l'accueil du public. Forcément, là, on n'est pas impacté, donc. On va attendre, on va être patient et comme on disait tout à l'heure, c'est des genres de choses qu'on maîtrise pas malheureusement. Donc on s'adaptera et on se pliera aux règles, hein, sachant qu'on forcément on en pâtira sur une partie financière et aussi sûrement un petit peu dans l'ambiance qui pourrait y avoir au gymnase.
Comment ont vécu les joueurs la saison dernière? Parce qu'au final, même si la plupart sont amateurs, ça reste quand même de la Nationale 2, du très haut niveau. Et il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits tout au long de l'année pour le hand. Mais là, finalement, il y a eu pas mal de matchs qui n'ont pas été joués. J'imagine qu'ils sont revenus sur la prépa estivale avec mort de faim, les dents qui rayaient le parquet.
C'est ça. Ben, nous, on a gardé une activité beach handball à Bourgine sur Angoulême, là, sur un espace extérieur, où on a pu faire du sans contact, en fait, parce que le beach handball est un sport sans contact. Du coup, le contact devient une faute, en fait, dans le jeu. Donc, ça nous a permis de jouer un petit peu avec la règle, mais en respectant un petit peu tout ça. Donc, d'avoir une pratique handball, du moins qui s'en rapproche, pendant la période de février-mars jusqu'à début juin. Après début juin, on les a laissés un petit peu partir en vacances et on les a récupérés en août avec un groupe qui forcément avait envie de faire du handball, qui forcément avait envie de prouver et retrouver les sensations du dur. Parce que dans le sable, on se fatigue plus rapidement, il paraît. Moi, j'ai pas eu la sensation, mais eux un petit peu plus.
En tout cas, ce qui est positif, c'est que les joueurs n'ont pas été sans activité physique sur la deuxième partie de saison. Donc là où des sports où on n'ont pas pu jouer, finalement, ils ont dû adapter une préparation estivale pour pas blesser les joueurs, parce que quelqu'un qui revient après une longue période d'inactivité, ça peut être dangereux au niveau des blessures. Vous, ça n'a pas forcément été trop votre cas. Vous avez fait une prépa plutôt normale, a priori.
Oui. Nous, on a été, on a eu quelques petits bobos et plutôt des douleurs d'adducteurs, pour tout vous dire, oui, pour être précis. Donc, je pense qu'il est dû en fait par pas mal de travail au final linéaire sur la partie du mois de juillet. En fait, même si on a fait du beach handball, l'intensité n'était pas non plus comme celle qu'ils avaient l'habitude, puis avec des changements d'appui aussi différents. Et je pense que le travail de course linéaire sur le mois de juillet, au moment du retour sur le terrain, avec des changements d'appui, on est venu tirer sur des adducteurs un petit peu plus. Donc, on a eu quelques douleurs d'adducteurs quand même en milieu de prépa. Donc, il a fait quand même quelques temps avant que ça remonte. On l'a pas eu de suite. Voilà, on a réglé ça. On a adapté aussi par des petits protocoles, etc. Mais voilà. Nous, c'est le seul petit alerte qu'on a eu. Après, forcément, des blessures de routine d'entraînement ou de match et qui font partie aussi du jeu. Mais voilà, on s'est quand même pas trop mal sorti, même si sur les trois premiers matchs, on a eu toujours un ou deux absents. Ça fait partie presque du quotidien.
Vous écoutez Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Rémi Faugère. Christian, c'est à toi.
Ouais, Rémi, tu t'évoquais tes missions. Arrivé donc en tant qu'entraîneur de l'équipe de National 2, tes missions ont été très variées. La question est très simple. Au final, sur quels aspects le club a encore une marge de progression?
Ouais, je pense que on a une vraie ouverture vers l'extérieur à faire, hein, pour aussi être franc et essayer de se faire une autocritique aussi de ce qu'on peut faire de mieux. Alors, du coup, moi, je disais tout à l'heure, je passe un DES JEPS actuellement, et dans un de mes projets, du coup, ça serait un petit peu d'ouvrir le club dans une démarche un petit peu RSE et avoir une action un petit peu sur de vrais acteurs sur son territoire. On va travailler par exemple là avec E2C, qui est l'école de la deuxième chance sur Angoulême, où on va faire des activités pour des jeunes en réinsertion. Voilà, c'est aussi sortir un petit peu du cadre en bas. Je pense que voilà, ça doit être une de nos missions, un petit peu de nos projets de développement, doit passer un petit peu par là. Je pense que on est aussi dans l'air du temps en allant sur ce genre de sujet. Ça nous permet aussi de nous ouvrir et montrer qu'on est acteur et pas que consommateur de notre territoire. Et je trouve que c'est important d'avoir un rôle et un impact sur notre territoire.
Tu parles beaucoup d'Angoulême, du Gon, de la périphérie d'Angoulême. Il y a aussi forcément le territoire de l'Est Charentais, là, donc votre territoire historique qui est La Rochefoucauld, Chasseneuil. C'est finalement un peu une contraction, pardon, des deux que le club essaye de trouver. Vous rapprochez peut-être un peu d'Angoulême, mais gardez aussi vos racines locales, entre guillemets.
Ouais, bon, on travaille aussi hein, sur notre territoire. C'est vrai qu'on essaie de, voilà, c'est des petites actions. Hein. C'est vrai qu'on est un club qui est en train de se développer petit à petit sur ce genre d'action, mais essayer d'être présent sur des actions comme le Télécton, montrer, voilà, on a essayé de faire Movember, on a essayé de travailler autour d'Octobre Rose, et au final sur notre territoire très proche, on est entre deux. Après, c'est aussi l'activité qu'il y a sur notre territoire, qu'est-ce qui nous permet de nous développer ou pas, sur quel type de service ou pas on peut aller se développer. Ça, c'est voilà, c'est toujours l'interrogation ou les opportunités. Là, ça a été vraiment une opportunité de venir sur. Du coup, c'est eux qui se déplaceront sur La Rochefoucauld, mais du coup, c'est une structure qui est basée sur Angoulême. Mais c'est vraiment être acteur sur La Rochefoucauld et ce territoire-là et Chasseneuil. Hein. On a fait quelques petites interventions scolaires en début d'année qui étaient basées que autour de notre cœur d'activité, hein, La Rochefoucauld et autour, les villages autour et Chasseneuil. Quoi.
Et tu parlais des écoles, justement. À quel âge on commence le handball à la tech?
Nous, c'est Baby Hand, c'est à partir de, je vais pas vous dire de bêtises, c'est 5 ans. On peut faire déjà du Baby Hand qui est en lien avec le club de gym. Donc, c'est une semaine handball, une semaine gym pour un petit peu alterner la double activité.
Ouais, c'est bien, ça permet de travailler la motricité.
Exactement, c'est le but. C'est quelque chose qui est en place depuis quelques années et il croule sous les demandes. Je crois qu'on a 50 licenciés Baby Hand. Donc ce qui est énorme à gérer, 50 enfants de entre 5 et 7 ans, je laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc
d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une pratique, alors toi t'as forcément ton regard d'emballeur mais aussi de sportif. J'ai l'impression que c'est quand même une pratique qui se démocratise de plus en plus. Il y a le baby tennis, le baby judo, le baby basket. On avait reçu Loïc Arami l'autre jour du CBA qui nous en parlait. J'ai l'impression qu'au final, on met entre guillemets les enfants de plus en plus jeunes au sport. Quel est ton avis là-dessus?
Ouais, après je pense que c'est vraiment du sport découverte, du sport en fait pour éveiller. Hein,
oui, voilà, complètement.
Notre nouvel type d'activité en fait, venir développer des habiletés motrices jeunes. On sait que un petit peu quand on s'y intéresse, qu'on y regarde, ces facultés qui sont développées à cet âge-là, ça amène des facilités ou du moins ça développe des choses qui sont plus difficiles de développer un petit peu plus tard. Donc forcément, on retrouve des enfants qui je pense peuvent avoir des aptitudes au sport un petit peu plus faciles. Puis c'est une petite culture aussi de la pratique sportive. Hein. On parle souvent de ces nouvelles générations un peu critiquées, écrans, etc. Enfin voilà, je pense que c'est, il y a une part de vérité, mais une part de cliché, parce qu'on voit quand même beaucoup de jeunes qui pratiquent du sport et de plus en plus jeunes et des pratiques plus compétitives. C'est même sur des catégories assez jeunes au final. Donc non, je trouve ça plutôt intéressant. Et culturellement, on voit quand même que les gens ont envie de faire ont envie que leurs enfants fassent du sport et je pense qu'ils voient ça comme une part de bien-être et d'épanouissement dans leurs enfants. Donc c'est à mieux et pas forcément que pour notre activité, mais pour toutes les activités, je pense, sportives et c'est important pour le sport en général, je pense.
Ben, le petit gamin qui fait du handball, du baby handball, finalement, ça peut. Alors c'est vrai que maintenant il y a une offre de sport qui est hyper variée, mais ça peut déjà lui donner un peu la fibre handball ou en tout cas une vocation à poursuivre lorsqu'il va grandir.
Ouais, je sais pas hein, si on va jusqu'à là. Alors souvent, les parents de balleurs, ou alors c'est ce qu'il y a sur le territoire. C'est vrai que mon territoire qui propose pas 40 activités pour les babies. Hein, donc c'est vrai que les gens viennent là. Après, si on avait 10 activités, peut-être qu'on aurait un peu moins de monde aussi hein, sur notre activité. Je pense que les enfants ils cherchent souvent à cet âge-là un petit peu. À faire une activité souvent à travers les parents, en fait c'est pas un choix personnel, rarement des enfants de 6 ans qui veulent faire du handball, absolument ça arrive plus tard, les choix plus affirmés là, plutôt vers 12-13 ans là où ils s'affirment vraiment sur des choix. Avant ils cherchent un petit peu hein. Donc ouais, je pense que c'est surtout l'activité qui est posée sur un territoire où il n'y a pas forcément trop de choix pour faire autre chose. Donc ils viennent vers le handball, il n'y a pas forcément, je pense, de fidélisation si forte que ça dans le handball. Après derrière ça change.
Ouais. Quand tu regardes ta carrière Rémi, aussi bien en tant que joueur que de coach, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans le handball ou pas?
Bon, je suis pas très vieux, j'ai 29 ans hein, donc
t'as d'expérience quand même.
Ouais, oui, mais pas. Non, je pense que on a quand même, je pense, il y a 2 ans pris une petite claque aussi dans la réalité de dire qu'en fait on a quelque chose qui est assez friable, même sur le haut niveau, où en fait on se retrouve avec beaucoup de personnes qui veulent reprendre du plaisir, je pense, dans leur activité et pas être contraints et trouver un petit peu ce juste milieu là. Je pense que ça a changé là à très court terme. Après on a quand même une culture française où le sport est quand même plutôt présent hein, entre les équipes de France de foot, de rugby, très sport-co hein, oui. Même la clé quand même une culture avec l'athlétisme qui est quand même assez présente. Voilà, on a quand même un pays où le sport a une place quand même importante, même s'il faut y rester vigilant, je pense, pour qu'elle garde cette place-là. Mais je pense qu'il y a eu un vrai changement, moi, sur les périodes d'année Covid, quand on discute un petit peu avec les joueurs sur leurs choix, leur volonté, leurs projets, même sur des recrutements, par exemple. Le cadre de vie, le bien-être en dehors est hyper important et le projet est une structure, souvent, ils parlent de familiale, accueillante. Pour eux, c'est très important, hein, en fait. Et alors qu'avant, on parlait beaucoup de projets sportifs ou d'argent pour faire venir des joueurs et des fois bah, ce qu'il y avait à côté c'était pas très grave quoi, tant que ça payait bien et que voilà. Là je trouve qu'un petit peu moins dans le discours des joueurs, beaucoup souhaitent plutôt un cadre et des valeurs humaines. Ça c'est intéressant.
Même si pour prolonger la question de Didier, toi qui as coaché à Frontignan, Frontignan c'est à côté de Sète si je me trompe pas, est-ce qu'il y a un handball un peu Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il y a un peu un handball un peu Hérolleté ou finalement on joue au même sport?
Ouais, je suis pas sûr que ça soit aussi marqué que ça. Bon, certains territoires, je pense,
bien. Parce que par exemple, en foot, on dit par exemple qu'en Dordogne, c'est un peu plus physique, en Charente-Maritime, c'est un peu plus physique, alors qu'en Charente, c'est un peu plus technique. Enfin, ouais. est-ce qu'il y a un peu ces trucs-là où on...
Ouais, c'est pas aussi marqué, mais forcément, quand on va jouer, comme on disait tout à l'heure, dans les Pyrénées, c'est des joueurs, par exemple, plus petits et plus hargneux. Voilà, quand on va dans l'endroit breton, c'est vrai que les cultures de défense sont aussi différentes. Donc, il y a forcément des des biais un petit peu comme ça qui sont pris, mais au final on a quand même des projets de jeu offensifs qui se ressemblent. C'est surtout sur la partie défensive où il y a des changements. Après le handball dans la région PACA par exemple est très axé offensif, il y a quelques zones comme ça un petit peu marquées, mais en tout cas pas choquant non plus dans son ensemble. Mais il y a quand même des régions qui se détachent par des performants, au moins des petites aptitudes de formation ou des types de jeux un peu plus marqués.
Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on avait eu ce débat un peu l'an passé sur la vidéo. Est-ce que c'est devenu un incontournable de toute façon hein, dans le sport de 2022, mais est-ce que toi, tu y passes beaucoup de temps la vidéo pour décortiquer l'adversaire ou finalement pour revenir un peu sur votre match?
Oui, alors moi, je fais très peu de vidéos collectives avec le groupe, par exemple, sur nos matchs passés. Moi, je le regarde personnellement, mais je remonte pas au groupe parce que souvent on appuie sur des choses qui vont pas. On regarde rarement un match avec le groupe pour lui dire ah ben, ça c'était super. Ben, si on fait ça chaque semaine, on dit toujours que c'est super, mais la réalité c'est pas ça. Si on se fait vidéo chaque semaine sur notre propre match, on se montre souvent les points qui vont pas, et du coup très peu sur par exemple sur nous pour effacer ça, mais pas mal sur l'équipe adverse. On a monté avec un entraîneur de la poule un groupe d'échange avec les autres entraîneurs, ce qui n'était pas le cas avant, pour qu'on ait une plateforme en ligne où on puisse échanger les matchs comme les divisions professionnelles en fait.
Donc en fait, tout le monde fait son match et tout le monde le partage finalement aux autres.
Exactement. Exactement. Alors, c'est forcément à l'avantage plus d'équipes que d'autres. Personnellement, moi, ça m'avantage beaucoup parce que ben, je suis salarié de la structure et bien détaché sur l'équipe première, donc j'ai le temps de faire les matchs. Moi, je le regarde deux fois, le match, et après, je le séquence. C'est-à-dire que je vais regarder une première fois un peu brute, une deuxième fois où je prends des notes par rapport un petit peu les sensations que j'ai vues sur la première vision, et après derrière je le séquence avec un logiciel qui me permet de faire ressortir vraiment ce que je veux voir. Par exemple, une équipe qui joue beaucoup de temps fort dans le secteur intérieur et qui lâche toutes les balles sur les ailiers par exemple, ben je vais essayer de séquencer une dizaine de séquences vidéo comme ça, assez courtes de 10 secondes, et du coup montrer ça. Et du coup, une fois que j'ai fait mon petit montage, le jeudi, j'ai une petite séquence où on travaille plutôt sur l'attaque adverse. Et du coup, nous, on travaille défensivement sur nos éventuelles adaptations ou pas. Parce que des fois, on veut rien changer, juste conforter ce qu'on fait. Et du coup, le vendredi, l'inverse, plutôt sur la défense adverse, avec point fort, point faible, éventuellement des joueurs à isoler un petit peu. Et du coup, sur quel mouvement de notre projet de jeu déjà en place pourrait mieux fonctionner. Et du coup, on est un peu sur de la révision et, voilà, et quelques petits réglages de détails.
Bon, bah écoute, t'as répondu à ma question suivante, hein, ce qui était, du coup, est-ce que ça change un peu le programme finalement de vos entraînements sur la semaine? Donc oui, forcément, il y a des adaptations qui sont faites par rapport aux adversaires.
Ouais, mais pas forcément par rapport aux adversaires. Dans le contenu de séance, hein, forcément, hein, si on a une équipe qui défend de tel type et l'autre d'une autre, on va pas faire exactement la même séance. Mais on est plutôt axé sur notre défense le jeudi, plutôt axé sur notre attaque le vendredi, du travail de relation à 2 à 3 le mardi, avec du travail de PMA, ouais, pareil sur la séance du mardi, et du travail individuel et de musculation le lundi, avec du travail de tir au poste par exemple, ou du travail de gardien de but sur la séance du lundi.
Le championnat reprend dans un mois là maintenant. Le programme de janvier, quel est-il pour tes joueurs et pour toi?
Alors on repart sur des semaines classiques, en sachant qu'on joue deux matchs sur la prépa. Un le 21 à la Spombègle en déplacement, et un deuxième match amical le 28 contre Poitiers, qu'on recevra, qui est une équipe de N1 Elite, donc qui joue l'accession en D2, et qu'on recevra à Chasse-Neuil à 20h30, 21h. L'horaire est pas fixé. Et du coup, deux matchs. La SPOM à l'extérieur le 21, et un deuxième match à l'extérieur le 28 contre Poitiers, qu'on reçoit une équipe de N1 Elite.
Voilà. Donc pour les fans de l'EPEC, il y aura un match donc à aller voir potentiellement le 28 contre Poitiers.
C'est ça, exactement.
En plus, c'est un beau match contre une belle équipe.
Ouais, c'est une équipe de Poitiers qui est en NE Elite, qui a quelques ambitions, qui se structure professionnellement vraiment, hein, qui a un cap vraiment encore au-dessus de nous, mais qui est forcément un petit peu qui peut inspirer, hein, qui était à notre niveau il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a deux ans, et qui on voit un club qui avance, qui structure. Donc on les reçoit dans la salle de Chasse-Neuil volontairement, parce que la semaine d'après on reçoit Irizarry dans cette même salle à Chasse-Neuil, donc ça nous aura permis d'avoir fait un petit peu une petite répétition dans ce gymnase.
Tu parlais tout à l'heure de Hénin. Bon, il y a forcément dans le sport les pros d'un côté et les amateurs de l'autre, même si il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. On parle de semi-pro, mais au final, il n'y a pas vraiment de statut. En N1, du coup, donc j'ai bien compris que vous étiez du coup amateur, mais bon, quand même semi-pro avec quand même beaucoup d'investissement. Mais est-ce qu'en N1, tous les clubs sont pro? Enfin, est-ce que potentiellement une montée peut faire passer un cap au club?
Non, pas tout à fait. Un petit peu à, je sais que vous avez quand même beaucoup d'auditeurs qui aiment le rugby. Un petit peu comme au rugby, en fait. La N1 est découpée un petit peu en deux avec un niveau élite et un niveau N1, un petit peu comme la Fédérale 1 et son niveau national qu'ils appellent au rugby, mais qui est un petit peu cette double division cachée, en fait. Hein. Et du coup, nous, c'est un petit peu pareil au handball. En fait, il y a une division qui joue la montée vers la D2. Qui pourrait ressembler à la Pro D2, et une division et d'autres poules en dessous qui sont des poules de N1 qui, elles, ne peuvent qu'accéder en fait à ce niveau élite.
Ah oui. Donc c'est vache de le dire, mais finalement, le National 2, c'est un peu une cinquième division en fait.
Exactement. Exactement. Mais bon, pour la fédération, on fait ce soir-là un petit peu de grouper un peu cette double division pour aussi permettre le club de pas être si loin que ça de cette N1 Elite, parce que c'est en fait beaucoup de travail autour des budgets, des projets de club et une structuration professionnelle.
Ouais, puis ça permet aussi aux clubs qui montent de National 2 de pas se retrouver confrontés à des équipes de D2 qui descendent de D2 et finalement peut-être d'avoir des championnats un peu plus homogènes.
C'est ça, exactement. Après, voilà, la montée en N1 Elite, bon, elle se fait un peu plus sportivement maintenant, mais il y a quand même un cahier des charges à remplir.
Ah oui, il y a des... D'accord.
Si on remplit pas le cahier des charges, on peut pas y accéder. Donc, des fois, les 3-4 premières équipes de N1 n'ont peut-être pas le cahier des charges, et peut-être la 5e, la 6e ont le cahier des charges pour y accéder, et donc peuvent aller évoluer dans ce niveau-là. Et en fait, ça crée une division professionnelle à ce niveau-là, avec des équipes qui sont obligées d'avoir un certain nombre de joueurs pro, un entraîneur professionnel, etc. Voilà.
Toutes les équipes de N1, du coup, poule haute, entre guillemets, c'est des équipes qui sont formatées potentiellement pour aller en D2.
Il y a un budget minimum des joueurs professionnels. Ouais. C'est des équipes qui ressemblent pas tout à fait, mais qui se rapprochent des équipes de deuxième division. Un petit peu comme c'est fait au rugby. Ouais. C'est vraiment le parallèle est vraiment réalisable parce que ça y ressemble. Même si le handball est moins professionnel que ce peut faire le rugby, ça y ressemble quand même grandement.
Parfait, Rémi. Écoute, on arrive au terme de cette émission. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On va te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter concrètement?
Bon, ben on va souhaiter déjà beaucoup de victoires, je l'espère. Éventuellement une montée en National 1 à la fin de la saison. Et voilà, j'espère de la réussite, mais à tout le monde, hein, à vous aussi, j'espère. Et voilà, si je peux conclure comme ça me suffira.
Parfait, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On reviendra vers toi pour en fin d'année pour faire un bilan. Voilà.
Pas de soucis, super.
Avec grand plaisir. On te souhaite donc plein de bonnes choses. Merci d'avoir accepté notre émission encore une fois. Merci beaucoup et à très bientôt, Rémi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.